Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Comme Elle. Je suis Émilie, je suis votre hôte et la fondatrice de l'agence événementielle La Parenthèse Magique. Au fil des épisodes, je vous emmène à la rencontre de femmes au profil très différent mais qui ont tout un point commun, c'est d'être inspirantes de par leur métier, leur passion, leur vision de la vie, leurs objectifs, leurs ambitions. Des femmes connues ou moins connues, mais auxquelles on pourra toutes s'identifier et se dire bon, « si elles y sont arrivées, pourquoi pas moi ?» Ces conversations avec mes invités sont là comme de véritables boosts d'énergie positive, pour que vous puissiez prendre confiance en vous, vous dire qu'en y croyant très fort et en s'en donnant les moyens, eh bien finalement tout est possible. Et puis, que surtout, surtout, comme elles, vous osiez. Alors, sans plus attendre, je laisse place à l'épisode du jour. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Mathilda Motte. Mathilda, c'est la fondatrice de la Maison du Mochi. Est-ce que vous connaissez cette douce et délicieuse pâtisserie japonaise ? Eh bien, Mathilda, elle en est tombée complètement amoureuse lors de son séjour d'un an au Japon. La Maison du Mochi, c'est 3 boutiques parisiennes, un atelier de production en plein cœur de Touraine et près de 16 salariés et 2000 mochi produits par jour avec des parfums comme citron yuzu, haricot rouge ou encore sésame noir. Allez, je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir le mochi, la culture japonaise et toutes les étapes du parcours de Mathilda dans cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mathilda.
Bonjour Émilie.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse de te recevoir dans le podcast Comme Elle, d'autant plus que j'ai vu que tu avais participé à d'autres podcasts. Donc j'espère que celui-ci ne sera pas redondant et que ce sera axé sur autre chose. J'aimerais, comme à l'accoutumée pour débuter l'épisode, que tu puisses te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et si tu le veux bien, quel âge tu as.
Oui, avec plaisir. Donc je m'appelle Mathilda, je suis la fondatrice de la Maison du Mochi. Ce sont des pâtisseries d'origine japonaise. On est spécialisé dans les daifuku, peut-être qu'on en reparlera.
Bien sûr, oui.
J'ai 37 ans.
D'accord.
Et puis, je suis maman de 3 enfants et je vis en Touraine.
D'accord, très bien. Dans la belle Touraine. Oui. Alors, j'aimerais, justement, on va évidemment reparler de la Maison du Mochi. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière. Au tout début de ton parcours en tant qu'étudiante, j'ai envie de dire avant le parcours professionnel, est-ce que tu as fait des études? Dans quel domaine? Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler?
Oui, avec plaisir. Alors, j'ai fait un bac à l'époque, ça s'appelait littéraire. Option histoire de l'art et art plastique. J'ai toujours été, assez tôt été attirée par le beau. J'ai grandi à la campagne, donc pour moi, le beau, il était partout. Mais en faisant mes études, ce qui m'attirait le plus, c'était de parler tableau, de parler représentation, de parler perception.
D'accord.
Donc, j'ai fait ce bac-là. Et ensuite, j'ai fait des études d'hippocagne-cagne, option histoire de l'art toujours. C'est ça qui me motivait. Mm-hmm. Et enfin, je suis passée à une double licence histoire et histoire de l'art. Et ensuite, j'ai fini en master histoire de l'art. Et j'ai été spécialiste donc, de l'architecture des châteaux du XVIIIe siècle, en
D'accord.
particulier néoclassique.
Ok.
Et c'est comme ça, c'est après ces études-là que j'ai trouvé mon premier job.
Ok. Au tout début, justement, de ce parcours, quand t'es venu le moment, alors je ne sais pas si au moment du bac, de choisir quelles études tu allais faire, tu avais une idée précise en tête du métier que tu visais ou pas forcément? Tu savais que c'était ce domaine-là qui te plaisait, mais après, tu n'avais pas forcément un objectif précis de métier.
J'avais absolument pas d'objectif précis. J'étais plus guidée par tout simplement à l'instant T, ce qui m'attirait, ce qui me plaisait. Parce que je n'étais pas quelqu'un qui était très bonne à l'école sur tous les tableaux. Donc, en fait, je faisais aussi ce que je pouvais.
D'accord.
C'est-à-dire plutôt ce qui est littérature, art.
Ok. Donc, tu fais cette étude-là. Tu vas jusqu'au master, si je ne me trompe pas. Et ensuite, est-ce que tu décroches un job directement à la suite de tes études? Comment ça se passe?
Alors, je décroche d'abord un stage pour une exposition d'art contemporain qui s'appelle Parcours Saint-Germain, dans le 6e arrondissement. Et ensuite, à la fin de mon stage, je me mets à chercher, à parler autour de moi et par le bouche à oreille, je trouve mon premier job qui était au château de Versailles, donc à la Société des Amis de Versailles, comme chargée de mécénat.
Ok, très bien. Un bel endroit pour, pour travailler du coup.
C'était incroyable de commencer par là, ouais.
Ouais. Donc tes études, c'était sur Paris tes études? Parce que là, tu nous parles... D'accord, donc tu as tout fait sur Paris
J'ai fait 2 années de prépa à Toulouse, puisqu'il y avait très peu de prépa littéraire qui proposait cette option histoire de l'art.
Ah oui, okay.
Il y en avait à Paris et puis à Toulouse, et j'étais assez attirée par cette ville.
Ok, très bien.
Donc ça a été l'occasion.
Donc Toulouse et Paris, parfait. Donc tu travailles au château de Versailles. Combien de temps ça dure, cette expérience professionnelle au château de Versailles ?
J'y travaille pendant 2 ans et demi.
Oui, et voilà. Ensuite ?
Et ensuite, le Japon.
C'est ça, je veux t'emmener là-bas, au Japon. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu files finalement dans ce pays et qu'est-ce qui te plaît là-bas ?
Donc, pourquoi est-ce que j'y vais ? C'était absolument pas prévu et quand j'y pense aujourd'hui, c'est vraiment un scandale parce que au vu du nombre de passionnés du Japon qui rêvent d'aller y vivre. Pour tout vous dire, c'était... Mon mari, qui avait été faire ses études pendant 1 an en Chine, avait adoré et avait demandé à sa boîte américaine de l'époque de retourner en Chine.
D'accord.
Et on lui a répondu, on t'a pas trouvé la Chine, mais presque pareil, le Japon. Et même nous, avec notre méconnaissance totale de la culture japonaise, on avait conscience que c'était pas du tout la même chose.
Oui.
Et donc, on dit un grand oui, parce que même si on s'y attendait pas, ce pays... avait l'air totalement fascinant et du coup, on y est allé sur cette base-là. Et j'avoue que je l'ai appris quelques mois avant qu'on y aille.
Oui.
Donc, j'étais vraiment trop contente et j'ai fait exprès de pas du tout me renseigner sur le Japon.
D'accord.
Pour arriver comme une page blanche.
Sans a priori. Sans
exactement.
Okay.
Comme je n'y connaissais rien, je me suis dit, c'est pas maintenant que je vais lire plein de trucs dessus.
Oui, bien sûr.
J'arrive comme une page blanche et on verra bien.
Ok, donc c'est ton mari qui est envoyé au Japon, tu le suis. Au niveau justement de toi, de ton métier, ça ne te dérangeait pas finalement d'arrêter ce que tu faisais au château de Versailles ? Est-ce que tu as pu retrouver une activité professionnelle au Japon ? Comment ça s'est passé ?
Ça ne me dérangeait pas d'arrêter puisque j'avais réalisé entre-temps que le mécénat, l'histoire de l'art pur comme ça, c'était pas pour moi puisque... ce que j'aime dans l'art, c'est être entourée de choses qui me nourrissent et du coup belles, mais bon, beau justement, on va en discuter au Japon, ça peut avoir plein de sens, mais d'être entourée d'objets et d'un environnement qui me nourrit. En revanche, de travailler dans le mécénat, je trouvais ça difficile, puisque pour être très honnête, c'est beaucoup cirer des bottes de personnes qui viennent exprès pour ça.
D'accord.
Ça manquait de générosité, il y avait un côté snob qui ne me convenait pas. Donc j'avais déjà réalisé que c'était pas pour moi.
D'accord, oui. Okay.
Mais je ne savais pas encore trop comment, qu'est-ce que j'allais trouver ensuite. Donc ça tombait plutôt bien.
D'accord, finalement, tout est bien tombé.
Voilà.
Donc arrivé au Japon, comment ça se passe, la découverte du pays, de la culture ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Donc arrivé au Japon, c'était une période très spéciale parce que c'était... On est arrivé à peu près un mois après le tsunami qui a abouti à la catastrophe de Fukushima. Donc quand on est parti, il y avait la centrale nucléaire qui fumait. On savait pas du tout ce qui allait se passer. On avait notre famille qui nous disait de pas y aller en disant c'est pas du tout prudent. Mais c'est vrai que nous on avait tellement envie d'y aller que on a un peu retardé, mais on y allait quand même. Et donc, quand on a pris l'avion pour y aller, on était les seuls étrangers.
Et
on s'est fait chouchouter comme jamais par l'équipe. On était sur Japan Airlines en plus.
D'accord.
Donc, et c'est vrai que sur place, ça a été hyper particulier. Je pense qu'on a vu le Japon comme peu de personnes étrangères l'ont vu.
Ouais.
C'est-à-dire peut-être aussi pendant le Covid, c'était comme ça. C'est-à-dire avec très, très peu d'étrangers de touristes.
Oui, d'accord. Okay.
Donc, c'était assez incroyable. Ça a été vraiment une sorte de parenthèse... enchantée, parce que je ne travaillais pas. En fait, j'ai commencé à essayer de trouver un travail. Puis je me suis vite rendu compte qu'en tant que ne parlant pas japonais, j'ai appris pendant toute cette année, mais encore, je me débrouillais plutôt mal à la fin. C'était très compliqué.
Oui, c'est une barrière véritable de la langue.
Une vraie barrière. Ouais. Ouais, de parler anglais, c'était pas suffisant. Et du coup, comme je savais qu'on n'y restait qu'une année, c'était vraiment une année et ça ne pouvait pas être plus long.
Au-delà, oui.
Je l'ai pris comme un voyage à la 19e siècle où on pose ses malles et puis on reste plusieurs mois. Et j'avoue que ça a été une année vraiment dingue.
D'accord.
Il y a peu de personnes qui ont cette chance de pouvoir vivre dans un pays étranger, pleinement en profiter, sans se dire qu'il faut travailler.
Oui, ou, c'est vrai.
En se disant que de toute façon, dans quelques mois, on rentre chez soi.
Oui, voilà. C'est sûr. Et donc justement, quand on préparait l'épisode, tu me parlais de la découverte de ce pays, de cette culture qui, toi, t'a touchée. Est-ce que tu peux justement me parler un petit peu de ça? Tu me parlais de l'approche de la beauté au Japon qui est complètement différente par rapport à nous en France, ce qu'on évoque. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus?
Oui, alors, c'est vrai que, donc moi, en tant qu'historienne de l'art, j'avais fait donc mes études, comme on le fait, en étudiant tous les paliers de la beauté. Et il faut savoir que nous, notre culture à nous, elle est héritière donc, des Grecs, et que la beauté, selon les Grecs, et encore jusqu'à aujourd'hui, dans nos manières de penser et de voir ça, c'est avant tout la symétrie, voilà, l'harmonie dans les formes, en gros la beauté absolue,
oui.
La beauté parfaite. Alors qu'au Japon, donc, c'était pas tout de suite pour moi, c'est petit à petit que j'ai compris ça, puisque justement j'avais pas étudié, mais donc au départ j'étais très touchée par des choses et je comprenais pas forcément pourquoi. Par exemple, telle tasse qui était superbe, avec une patine incroyable, une forme irrégulière, mais je la trouvais d'autant plus belle et j'avais pas. Petit à petit j'ai compris ce que c'était le beau à la japonaise, et oui. Donc le beau à la japonaise, on peut vraiment le mettre en opposition à ce beau à la grecque, mettons,
oui.
Puisqu'il est fait de fragilité. D'éphémère et justement d'âge aussi, puisque la beauté, c'est aussi la patine du temps sur un objet.
Mmh.
Et j'avoue que j'ai trouvé que ce beau-là me parlait beaucoup plus que le beau parfait. Et il était,
d'accord.
En fait, dans le beau, mettons à la grecque, il y a quelque chose d'inhumain, mmh. D'irréalisable, alors que ce beau à la japonaise, il a quelque chose de terriblement humain, émouvant. Et intéressant aussi en termes de guide de vie, un petit peu,
d'accord.
D'objectifs dans la vie. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais, et encore moins, en vieillissant, devenir un objet parfait, mais de devenir, voilà, cet objet au grand sens du terme.
Bien
on
sûr,
est,
oui.
On est des êtres vivants, mais de devenir quelqu'un qui s'est bonifié avec le temps, ça, j'ai trouvé ça très intéressant.
Mais c'est bien la façon dont tu nous en parles. On comprend très bien, en fait, la différence et ce que tu remarques, toi, en étant là-bas dans ce pays. Et c'est comme ça qu'on va arriver à parler des mochi. Alors, j'ai appris grâce à toi qu'on ne disait pas mochi, parce que moi, je les mange, mais je les prononce mochi. Et donc, c'est mochi. Est-ce que tu peux nous parler de la découverte de cette pâtisserie japonaise, puisqu'aujourd'hui, tu nous l'as dit en tout début d'épisode, tu as monté ton entreprise qui s'appelle la Maison du Mochi. Comment est venue, en fait, cette passion, je ne sais pas si je peux dire passion, pour cette pâtisserie?
Si, tu peux dire passion, puisque vraiment, il y a tous les aspects voilà, de cette pâtisserie qui me plaisent. Je vais t'expliquer pourquoi. En gros, quand j'étais donc au Japon, je m'amusais à acheter plein de trucs différents dans le combini ou les restaurants, les magasins du coin,
ouais.
Des choses que je ne connaissais pas.
D'accord.
Un jour, j'achète un mochi, je ne savais pas si c'était sucré ou salé.
Mm-hmm.
Et quand j'ai mordu dedans, j'ai vraiment ressenti justement une émotion ultra forte, quoi, qui ne correspond pas à juste un aliment. C'était pas « c'est bon, c'est… » Mais c'est quoi ce truc?
Ouais.
Cette douceur incarnée, cette texture élastique, fondante, avec à l'intérieur ce grain qui ressemble à la crème de marron. Et même au-delà, juste de la texture et du goût, j'ai été hyper émue. Ben voilà, cette fragilité, justement. J'ai retrouvé, voilà, c'est beau. Ça a été une des manières pour moi d'appréhender le beau à la japonaise,
oui.
Que je n'avais pas encore intégré.
D'accord.
Mais donc, à partir de voilà, cette rencontre avec le mochi en particulier, là, c'était un Daifuku mochi, je me suis passionnée pour cette pâtisserie que j'ai trouvée de fil en aiguille très intéressante. Bah, d'abord pour cette texture voilà, fondante. Certains clients parlent de nuages, d'autres
oui.
de joues de bébé.
Oui, c'est mou en fait.
Enfin, voilà, c'est très mou, oui. Et fondant. Et donc voilà, cette texture de dingue. En plus, en termes de composition, c'est du haricot et du riz. Donc d'un point de vue diététique, c'est super intéressant.
Oui.
C'est vraiment une douceur, mais pas méchante, au contraire, qui est nourrissante. En plus, c'est végétal, c'est sans gluten. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles c'est vraiment une pâtisserie bonne pour soi. Et en plus, avec cette allure un peu lunaire, c'est vrai que quand on la voit, c'est une boule poudrée. On imagine déjà à l'œil que c'est moelleux parce qu'on voit qu'elle n'est pas tout à fait ronde. Il y a des petits creux de temps en temps parce que il y a un côté un peu informe. Et donc, cette esthétique, là aussi, on est très loin de la perfection de notre
pâtisserie. Oui, c'est ce que j'allais dire. On rejoint ce que tu nous expliquais tout à l'heure.
C'est pas quelque chose qui est ultra construit, technique, mais plus quelque chose un peu aléatoire. Oui. Voilà, on sent qu'il y a un univers, mais on n'est pas... il y a quelque chose d'assez sobre et de retenue. Et tout ça, ça m'a beaucoup plu.
Ok, très bien. C'est passionnant comme on peut parler d'une pâtisserie. Moi, j'adore. Donc, tu tombes amoureuse des mochi, tout simplement, au Japon. Et comment tu en viens à décider, parce que tu me l'expliquais quand on préparait l'épisode, à fabriquer chez toi des mochi à ton retour en France, si je ne dis pas de bêtises?
Alors, la fabrication, elle arrive très vite à mon retour en France parce que, tout simplement, je n'arrive pas à en trouver des bons.
D'accord.
À l'époque, j'en trouvais seulement chez Toraya et je n'étais pas sûre à 100% d'en trouver puisqu'ils ont une... Voilà, Toraya, c'est une pâtisserie japonaise classique.
D'accord,
vraiment,
à Paris.
À Paris.
Oui.
C'est près de la Madeleine. Si vous y allez, c'est génial. Hein, c'est un voyage au Japon direct. Mais voilà, il n'y avait pas toujours des Daifuku parce qu'ils font plein d'autres pâtisseries.
Oui.
Et donc, tout simplement, au départ, j'en fabriquais pour moi.
Okay.
Et de fil en aiguille, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, je me suis rendu compte que je n'ai pas compris pourquoi est-ce que ce n'était pas plus proposé.
Oui, c'est ça. Mmh. Et justement, à part dans cette pâtisserie que tu évoques, on en trouve, mais peut-être qu'ils n'ont absolument pas le goût au Japon, en fait. On a peut-être moi la première, on mange des mochi, mais qui en fait ne sont pas du tout ceux qu'on peut retrouver traditionnellement au Japon. Et on se leurre un peu sur le goût que ça a, tant qu'on n'a pas dégusté les vrais bons mochi, de la maison du mochi en l'occurrence.
Mais par exemple, ceux de la maison du mochi, on ne peut pas dire que c'est des vrais du Japon, puisqu'on est une équipe de Français. Moi-même, c'est moi qui ai développé les recettes. Donc c'est plus des daifuku mochi de qualité, mettons, fait avec amour entre France et Japon. Mais ce n'est pas des vrais, comme on peut dire, puisque c'est que là-bas qu'on peut les déguster.
D'accord.
En revanche, c'est sûr que par rapport à des mochi industriels qu'on achète encore en magasin asiatique, qui ont en fait essentiellement goût de conservateur et qui ont une texture qui n'est pas du tout fondante et élastique, comme on
c'est
disait,
ça.
Mais plus pâteuse. Et là, c'est sûr qu'on est complètement... on n'a pas l'expérience mochi en les dégustant, celle-là.
Ok, d'accord. Donc, tu fabriques tes propres mochi. Où est-ce que tu trouves les recettes, d'ailleurs, justement? Comment tu sais doser les différents éléments de la recette?
Tout d'abord, c'est subjectif. Ce qui me semblera bon ne semblera pas bon à tout le monde. Toutefois, c'est vrai que j'ai ce côté un peu savant fou. J'aime bien expérimenter plein de trucs différents. Donc, j'expérimente. Quand je trouve qu'il y a un truc intéressant, ensuite, je le travaille plus précisément.
Ouais,
et puis, je fais goûter à plein de gens qui me disent.
D'accord. OK. Donc, tu fabriques tes propres mochi. Il me semble que tu en viens à écrire un livre sur le sujet. Comment est venue l'idée de ce livre?
Alors, voilà. L'idée de ce livre, ça correspond précisément au moment où j'en fabrique à la maison. Souvent, j'en sers au dessert quand il y a un dîner d'amis.
Oui.
Mon mari, Gustave, en est devenu complètement accro comme moi. Il dit,
d'accord.
C'est quand même un truc de fou. Et puis, là, je me dis... c'est quand même très bizarre qu'on n'en trouve pas des bons en France et que ce ne soit pas plus connu. Donc, à partir de là, comme je travaillais donc de retour en France, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que j'ai été recrutée comme styliste culinaire.
D'accord.
Puisque je me suis mise à écrire un blog sur la cuisine
quand
j'étais au Japon.
Oui, c'est vrai, tu me parlais de ça.
Et donc, je me suis fait recruter par une amie qui bossait pour l'atelier des chefs et qui avait besoin d'une styliste qu'elle ne trouvait pas pour ce projet. Donc, elle m'appelle en disant, Mathilda, tu ne peux pas me dépanner. Donc c'est comme ça que j'ai découvert ce métier, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé plus proche de moi que mon ancien métier, parce qu'il y avait quelque chose d'artistique et quelque chose de généreux qui est dans la cuisine. Voilà. Donc ça m'a beaucoup plu. Et donc j'avais déjà travaillé comme styliste pour des projets de livres.
Ah ok, très bien.
Et donc je commençais à connaître un peu le milieu d'édition de livres de cuisine. Et c'est comme ça que je me suis dit... Bon, en fait, ce sujet, il n'est pas du tout traité et je l'ai proposé. Et bingo, on m'a répondu, ok.
Donc, tu as sorti ton livre, c'était en quelle année? Est-ce que tu peux nous...
C'était en 2015.
En 2015, qui s'appelait comment, ce livre?
Mochi Mochi.
Mochi Mochi.
Qui est un jeu de mots, parce que Mochi Mochi, donc sans le tch, ça veut dire allô en japonais. Et d'accord. Donc mochi mochi, c'est le mochi, c'est la prononciation adéquate pour mochi le daifuku.
Oui. Ouais, ok.
Ça, c'est un petit mix des deux.
Est-ce qu'on peut encore le retrouver dans les librairies ce
oui,
livre?
Oui, oui. Il a été réédité plusieurs fois.
D'accord. C'est chouette. Ok, très bien. Donc tu fabriques tes mochi, t'en viens à écrire ce livre. Comment naît l'envie de professionnaliser cette culture du mochi, cette pâtisserie en France? Alors, tu nous disais, tu nous as un petit peu répondu que finalement, tu ne trouvais pas de mochi en France qui convenait. Est-ce que c'est vraiment ça le déclic? Et quelle a été vraiment la genèse, en fait, du projet actuel, la Maison du Mochi?
Disons que, avant toute chose... J'ai toujours été intéressée par l'univers de l'entreprise, le oui. fait de créer son entreprise, avoir sa propre activité. J'étais déjà en freelance. J'avais déjà réalisé que j'aimais travailler à mon rythme oui. et puis faire mes choix voilà, moi-même. Et donc, ne pas dépendre voilà, de quelqu'un qui décide pour moi, même si on ne peut pas résumer une entreprise à ça, mais voilà, ce besoin d'indépendance. Et par ailleurs, donc j'avais ça, qui était en sommeil, mettons. Oui. Je n'imaginais pas pour autant devenir chef d'entreprise du tout. Mais j'avais, mettons, ça un peu comme un fantasme.
Ouais, okay.
Et donc, je publie ce livre qui s'appelle Mochi Mochi. Mm-hmm. Et mon éditrice, au bout de 6 mois, me dit, Florence Lécuyer, que je salue, elle me dit, écoute Mathilda, il est bien ton livre, mais en gros, c'est un flop. Parce que, en fait, personne ne connaît les mochi.
Et, ouais.
Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, c'est vrai que c'est frustrant. Parce que je sais que cette pâtisserie est magique.
Mais oui.
J'ai pu expérimenter déjà pas mal de recettes, même entre France et Japon, ça fonctionne super bien. J'ai pas envie de m'arrêter là. Et je sais que si plus tard, et ça va forcément arriver, quelqu'un ouvre une maison du mochi, bah, je serais frustrée de
oui.
pas, de pas
que
moi.
Que ce soit pas toi qui ait fait découvrir la pâtisserie.
Ouais, ouais. ouais.
Okay.
Mais j'étais aussi un peu embêtée parce que je me sentais pas. Légitime.
Oui, c'est ce que j'allais dire, légitime.
Parce que j'avais passé qu'une seule année au Japon, j'étais pas spécialiste de la culture japonaise du tout, j'étais pas entrepreneur, j'étais pas pâtissière, j'étais pas plein de trucs.
Oui.
Mais j'avoue que je me suis dit, écoute, de toute façon, tu commences tout doux, tu vas proposer ce qui te semble être des bons daifuku mochi,
oui.
Et peut-être que d'autres personnes comme toi seront en manque et pour elles, seront contentes de t'avoir trouvé. En gros, c'est vraiment oui. comme ça. Mais je vais pas dire que je fais justement des mochi traditionnels parce que...
Oui, bien sûr, j'ai compris. Ouais.
Non. Je vais pas dire aussi que je fais les meilleurs du monde parce que non plus.
Oui.
Mais voilà, je commence tout doux. Si jamais ça fait plaisir à d'autres, cool.
Oui.
Et puis sinon, tant pis, j'aurais au moins coché cette case et j'aurais pas de regrets.
Ouais, l'envie vraiment de faire découvrir cette pâtisserie pour laquelle t'es tombée amoureuse aux Français parce que les Français ne connaissent pas les bons mochi que toi tu as goûté au Japon.
Exactement.
Ok, donc ça part de cette base-là. Bah, comment ça se passe en fait, les débuts? Est-ce que dès le départ, ça s'appelle la maison du mochi? Comment tu commercialises les pâtisseries que tu produis? Est-ce que tu produis toi? Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur le fonctionnement de ton entreprise au départ?
Oui, alors dès le départ, ça s'appelle la maison du mochi.
D'accord.
On a choisi ce nom. En fait, au départ, je voulais l'appeler Tsukimi.
Okay, qui veut dire
qui est le nom de mon podcast du coup.
D'accord. Mais oui, c'est vrai. On parlait et qui a une signification
tout à fait.
En français.
Alors ça fait partie de ces mots japonais magiques tellement poétiques. C'est un mot
d'accord.
pour dire regarder la lune.
Ah ok.
Donc
c'est hyper poétique.
C'est hyper poétique. Ouais. Il y a plein de mots comme ça qui sont qui désignent soit une émotion, soit une activité comme ça qui n'est pas du tout une activité pratique, mais quelque chose de très spécifique et poétique. Donc,
ouais.
Y en a plein de mots comme ça, trop beaux. Il y a Yukimi aussi, regardez la neige.
D'accord.
Il y a aussi Nagori qui veut dire une sensation un peu mélancolique, mais agréable, de quand quelque chose s'arrête et qu'on regrette un peu, mais
nostalgie.
On passe à autre chose. Donc,
ouais,
du style d'une saison à une autre, par exemple.
Ah, oui,
là,
okay.
on est un peu dedans.
Oui.
quand on voit les feuilles qui rougissent et on sait que ça va tomber, il faut qu'on en profite parce que
d'accord.
ça va bientôt passer.
Ouais,
ça,
okay.
c'est cette sensation-là.
Donc,
c'est génial, en fait.
Mais
on n'a pas de mots pour ça. Et quand on sait qu'on pense avec les mots aussi, on se dit qu'au Japon, les Japonais ont tous ces palettes de nuances avec des mots qui y correspondent.
Oui.
Du coup, ils ont beaucoup plus facilement accès à des émotions beaucoup plus subtiles que nous, qui sommes juste sur « je suis mélancolique ».
Oui, je comprends. Ok. Mm. Et donc, pour en revenir au début... Oui, non, mais c'était intéressant justement de voir ces mots-là, parce qu'effectivement, c'est très poétique et on comprend ta passion pour le Japon et les pâtisseries. Donc oui, je te posais la question de comment naît l'entreprise La Maison du Mochi, qui s'appelle, tu m'expliquais ça tout à l'heure, effectivement, La Maison du Mochi dès le départ.
Oui.
Comment tu fais? Comment ça se passe? Quelles sont les étapes au tout début?
Donc la première étape, c'est au-delà de la création pure, la déclaration et tout ça, c'est la création d'un site internet.
D'accord.
La boutique en ligne qui est toujours celle qu'on a aujourd'hui, même okay. si elle a été développée, améliorée, mais c'est le même aspect, avec le même logo aussi. Tout ça, ça a été fait dès le départ. Et du coup, on lance la boutique en ligne en octobre 2016.
Oui, ok.
Et là, je me souviens que donc, Gustave, mon mari, me disait, pour anticiper ma déception,
oui.
me disait, tu sais, Mathilda, il faut t'attendre à attendre toute la journée qu'une commande tombe.
Oui.
Donc, je disais, oui, je sais. Et le jour de l'ouverture, j'avais un peu communiqué, notamment par le biais de mon blog.
Oui.
Et puis, c'était aussi les débuts des réseaux. Facebook était à plein et Instagram un peu. Maintenant, ça s'est bien inversé.
Oui, c'est vrai.
Et donc, j'annonce ça quelques jours avant. Et le jour de l'ouverture, je me réveille et on a déjà, une vingtaine, trentaine de commandes qui sont tombées.
D'accord.
Et voilà, dans l'espace de la journée, c'était vraiment euphorisant. C'est comme s'appeler avec Gustave. Comment on fait? Parce que du coup, on n'était pas équipés pour gérer beaucoup.
C'est toi toute seule qui produisais.
En plus de mon métier par ailleurs.
Et oui.
Donc, on a accumulé au bout d'une journée de mise en ligne, 3 mois d'attente,
super.
De file d'attente.
Donc, c'est fou.
C'était trop cool.
donc finalement, les Français ont dit, mais oui, on veut manger des bons mochis.
Ouais, la réponse a été très claire.
Ouais, et c'est là peut-être, j'imagine, que ton blog a aidé parce que c'était une petite communauté que tu avais créée.
Complètement.
Qui a quand même fait acheter au tout départ ces mochis. Est-ce que tu avais fait... une étude de marché pour voir un petit peu comment ça se passait? Alors, tu nous disais qu'il n'y avait pas qui était vendu, mais quelle a été la décision, par exemple, de vendre en ligne au tout départ et de ne pas avoir de boutique? On sait que maintenant, tu as des boutiques, on en parlera tout à l'heure, mais est-ce que ça ne dérange pas de vendre en ligne de par l'envoi pour ces pâtisseries, en fait? Il n'y a pas de problème à ce niveau-là d'esthétique quand elles arrivent chez le client?
Il y avait plein de problèmes à créer une boutique en ligne plutôt qu'une boutique en vrai.
Oui.
Toutefois, pour moi, il n'était pas question de déménager.
D'accord.
Et je vivais à Saint-Martin-le-Beau, dans un petit village en Touraine.
Oui.
Donc, je n'avais pas le choix, en fait.
D'accord.
Il se trouve que les Daifuku Mochi, c'est une texture donc, élastique, rebondie,
oui.
Qui s'abîme beaucoup moins qu'un macaron dans le transport.
C'est ça. OK.
Donc, c'était envisageable de le faire de cette manière-là. Toutefois, depuis, on s'est énormément amélioré. On a mis en place notamment la mise sous atmosphère qui permet de les conserver plus longtemps. À l'époque,
d'accord.
je fabriquais mes Daifuku, je les enveloppais individuellement de films alimentaires.
D'accord.
Et je les expédiais dans des coffrets ainsi. Mais à réception, okay. les clients n'avaient que 2 jours pour les déguster. Aujourd'hui,
oui.
ils ont 7 jours.
D'accord, ok, oui, ça a évolué évidemment. Mm. Ça, c'était en 2016, hein, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Ok, donc tu as 3 mois d'avance dans les commandes. Comment ça se déroule les mois et les années peut-être qui suivent? Comment évolue ton entreprise finalement, La Maison du Mochi? Est-ce qu'à un moment donné, tu passes à être 2 plutôt à la production? Enfin, vraiment, comment ça se passe?
Alors, les 6 premiers mois, je suis toute seule.
Oui.
Au bout de 6 mois, ma belle-sœur Lucie... me rejoint pour une année. Elle-même avait envie de participer à cette aventure, de voir la part entrepreneuriale. Moi, je
oui.
cherchais quelqu'un parce que c'était compliqué, là, d'être toute seule.
Mais de tout gérer.
De recruter quelqu'un, c'était un peu tôt. Et puis, c'est vrai que c'est très intimidant. Ouais, de se charger d'un emploi.
Bien sûr.
Donc c'était super chouette et je la remercie encore, Lucie, pour son aide cette première année. Elle a été précieuse, d'autant que j'étais enceinte surprise de mon 3e.
D'accord, ah oui, d'autant plus.
Donc j'avais 2 jobs, plus ce bébé surprise, c'était compliqué. Et donc cette première année s'est passée comme ça et j'ai recruté donc, le premier pâtissier qui s'appelle Adonis Brunet, qui n'est plus avec nous depuis 6 mois.
D'accord.
Il joue à temps plein au théâtre.
D'accord.
Mais donc, il nous a accompagnés pendant plusieurs années. Donc, Adonis a été recruté en mars 2018.
D'accord.
Premier employé.
OK. Voilà. Très bien. Donc à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans après le lancement véritable.
Ouais, c'est ça.
Ok,
ouais.
Très bien. Donc ensuite, les commandes sont, j'imagine, toujours là. Comment tu expliques justement l'engouement pour cette pâtisserie de la part des Français qui finalement ne connaissent pas tant que ça, le mochi?
Ouais. Et bah c'est difficile d'expliquer, hein. Franchement, c'est un...
Quels sont les retours, pardon, disons, peut-être que tu peux avoir?
Alors,
peut-être dans ce sens-là, ma question. Quels sont les retours, ouais.
Les différents clients oui. qu'on peut avoir, profil de client, donc des passionnés du Japon, oui. numéro un. Ensuite, des personnes qui ont une alimentation végétarienne, plutôt orientation végétale.
D'accord.
Des personnes qui sont à la recherche de pâtisseries saines. Mm-hmm. Des personnes qui sont à la recherche de nouveaux, de D'accord. nouvelles textures, etc. Et puis aussi les régimes sans gluten. Donc en ouais. fait, ça touche pas mal de personnes différentes okay. ouais. en réalité.
Très bien. Donc cette boutique en ligne pendant 2-3 ans, tu m'expliquais quand on préparait l'épisode, elle marche bien, tu as un carnet de commandes qui se remplit.
Oui.
Comment tu décides d'en faire ton activité principale? À quel moment? Parce que tu nous expliquais qu'au tout début, tu avais un emploi à côté et que c'était vraiment ces deux activités qui t'occupaient. À quel moment la bascule se fait où tu te dis « Allez, je donne 100% de mon temps à la maison du mochi »
Ça s'est passé 1 an après la création à peu près.
D'accord.
Donc on peut dire à la rentrée 2017.
Oui.
Tout simplement parce que je pouvais plus être écartelée entre ces différentes c'est activités. Ça, oui. Et comme la demande grandissait côté la maison du mochi,
oui.
Et que j'étais en freelance, je me suis dit, bon, au pire, je raccroche les wagons de mon métier de styliste culinaire et d'auteur. Ouais. Et même si c'est jamais bon de laisser la place vide... Voilà, c'est quelque chose qui est envisageable. Ça s'est passé à ce moment-là.
Ça marchait bien et puis tu avais vraiment envie, j'imagine, de t'investir pleinement dans la maison du mochi.
Oui.
Donc tu nous expliques que tu finis par avoir des salariés. La production, elle se passe où? Est-ce que c'est toujours en Touraine à cette époque-là? Tu nous expliquais qu'au tout début, c'était chez toi. Donc à un moment donné, est-ce que tu as acheté un local pour faire cette production?
Alors, je n'ai pas acheté un local, mais j'ai eu la chance... d'avoir accès à un local en location juste à côté de chez moi.
D'accord, ok.
C'est en fait l'entrepreneur qui avait refait notre maison, qui oui. avait acheté la petite gare juste à côté.
D'accord.
Et je l'avais pris un peu comme conseiller dans ma recherche de local. Au bout de 2-3 appels de ma part où je lui demandais pour tant de mètres carrés, ça me coûterait combien, etc. Mm-hmm. Il me dit, mais Mathilda, ça ne t'intéresse pas la gare, donc la petite gare de Saint-Martin-le-Beau.
D'accord.
Bah, comment ça? Ça ne m'intéresse pas. Il dit, en fait, c'est moi qui l'ai. Est-ce que tu veux t'y installer? Et donc, super. Enfin, ça, c'est ça ce genre temps, ouais. de signe. Ça a été que ça, la maison du mochi, de sorte d'impression d'un fil rouge qui se déroule.
Ouais,
comme ça.
C'est beau.
Et donc voilà, ça a été génial. J'ai pu emprunter 50 000 euros chez le banquier.
D'accord.
Ça a été pas simple d'expliquer au banquier que le business de la e-boutique de mochi en Touraine avait de l'avenir.
Effectivement.
Bon, j'avais mon carnet de commandes sur 6 mois qui était garanti. C'était par un très gros emprunt. Donc j'ai pu emprunter pour aménager ce premier labo.
Ok, donc premier laboratoire à Saint-Martin-le-Beau, dans notre belle Touraine, avec des salariés. Donc vraiment, la maison du mochi, elle a plus la même allure, entre guillemets, qu'au tout départ. Ça grandit, le mochi est goûté par les Français et beaucoup aimé. Et tu décides, alors je ne sais pas combien de temps se passe entre ce moment-là qu'on évoque à l'instant et la première boutique, mais tu décides de créer une boutique. Quelle est ta réflexion qui t'amène justement à te dire, allez, je veux une boutique physique? En plus, évidemment, toujours de la boutique en ligne qui fonctionne.
Il y avait plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, il se trouve que quand on veut se faire connaître, et c'est vrai que c'est important, et moi j'y suis très sensible que l'image soit bien pleine et, oui. et belle, pour se faire connaître et reconnaître, quand on n'a pas de boutique, c'est compliqué.
Oui, quand on n'a pas pignon sur rue, c'est sûr. Oui, oui. Ouais.
Voilà, j'avais ce retour-là. J'avais aussi une frustration par rapport à, tu l'as relevé, pour la boutique en ligne. On ne peut pas maîtriser l'esthétique absolument parce que oui. Votre pâtisserie, elle est transportée. Le colis, il peut être smashé. Il arrive, il n'est pas en très bon état. Et même vos mochi, ils ne sont pas avec le poudré parfait, le tamponnage parfait. Donc ça, je trouvais ça vraiment frustrant de mois en mois, d'année en année.
Oui, c'est ce que tu m'expliquais, ça n'altère pas, le transport n'altère pas la pâtisserie en elle-même, mais non. Toute l'expérience vécue autour de la pâtisserie, le fait de recevoir le colis qui, comme tu l'expliquais, peut être abîmé parfois, parce qu'on sait, Dieu sait combien les transporteurs font pas forcément attention. Donc effectivement, toute l'expérience autour, elle n'était pas comme tu l'aurais voulu peut-être, et c'est ça la boutique qui te le permettait en fait, de faire vivre l'expérience totale depuis l'entrée dans la boutique jusqu'à la dégustation.
Exactement, et c'est vrai que c'est ça, c'est en gros ces deux arguments-là qui m'ont fait me décider, et je n'avais pas conscience que finalement c'était aussi beaucoup plus rentable d'ouvrir une boutique, même si c'est plus difficile puisque vous avez des charges de location si ça ne marche pas.
C'était exactement la question que je voulais te poser en se disant, alors la première boutique que tu as ouverte est à Paris.
Oui.
Je ne sais pas laquelle c'est, si c'est celle dans le 3e, dans le 6e.
Dans le 6e.
Dans le 6e arrondissement de Paris. Mais effectivement, moi, la première chose que je me dis, ne m'y connaissant pas en commerce, n'ayant pas de boutique, c'est effectivement une boutique, c'est un investissement et c'est aussi des charges chaque mois qui tombent. Alors évidemment, quand on a un site internet, enfin un site en ligne aussi, mais peut-être moindre par rapport à l'investissement qu'est une boutique en plein cœur de Paris.
Bah bien sûr, c'est une sacrée étape et j'avoue, j'ai eu très peur. J'étais angoissée, ça me faisait très peur bien de faire ça. Pour moi, c'était vraiment un grand saut dans le vide. Donc c'est sûr, après, en fait, soit j'évoluais de cette manière-là, soit on en restait à ce fonctionnement et ce n'était pas satisfaisant pour moi parce que j'étais à un stade où je devais absolument tout faire depuis... le fait de pâtisser, mettre en place les recettes, gérer l'entreprise avec tout ce qu'il y a de...
Mais ouais, c'est ça.
Hyper lourd, gérer les équipes, les équipes qui n'étaient pas nombreuses, mais c'est quand même gestion humaine.
C'est pas rien.
Donc en fait, j'avais toutes les casquettes et donc je m'épuisais. Donc il fallait que je continue, soit j'arrête, mais en gros, il fallait que je continue.
C'est ça, il fallait que tu le développes et ça passait par l'ouverture d'une boutique.
Oui, parce qu'en l'état, c'était trop épuisant.
D'accord, très bien. Donc, ouverture de la première boutique en quelle année
Donc ça, c'était en 2019, on a ouvert en mai 2019.
Mai 2019, donc première boutique à Paris. Paris s'imposait comme une évidence pour cette première boutique.
Bah oui, c'est là où on avait notre clientèle. Sur les réseaux, c'est assez intéressant. On peut avoir, sur les personnes qui vous suivent, un ratio de qui habite où, et c'était Paris, mais 90%.
D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour ceux qui ne connaîtraient pas la Maison du Mochi ou qui ne sont jamais allés dans la boutique ou dans une des trois boutiques, puisque maintenant tu en as trois. Quelle est l'expérience la Maison du Mochi? Comment sont faites tes boutiques? Comment tu as imaginé cette expérience la Maison du Mochi dans les boutiques?
Donc ce sont des petites boutiques.
D'accord.
Pourquoi petites? Parce que justement, l'investissement, déjà, il est costaud. Donc, je ne suis pas partie sur de 100 mètres carrés.
Bien sûr.
C'est animé. déjà, 20 mètres carrés, faut les occuper.
Oui.
Donc, petite boutique avec un comptoir pour abriter les Daifuku Mochi. Et puis quelques tables de dégustation pour siroter un bon thé ou un bon matcha latte. Tout l'univers autour est autour du poudré,
d'accord,
de la rondeur,
okay,
et aussi avec une couleur très spécifique qui rappelle la peau. Donc il y a plein de tons différents, du rose très pâle, mais pas un rose, un rose avec du jaune dedans, une sorte de vieux rose, mais de peau, un cuivré plus soutenu, mais parce que c'est vrai que la texture du mochi, l'enveloppe a quelque chose qui rappelle un peu la peau, il y a quelque chose dans cet univers, donc j'ai vraiment créé autour de ça pour qu'on ait une sensation de douceur principalement qui est inspirée de cette pâtisserie.
D'accord. Donc pour découvrir le mochi, on peut aller en boutique pour vivre justement toute cette expérience autour de cette pâtisserie. Et puis pour ceux qui ne seraient pas à Paris, on peut commander évidemment toujours en ligne sur la boutique. Donc je le disais tout à l'heure, tu as lancé la première boutique parisienne en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, tu en as trois des boutiques, dont une qui a ouvert il y a... Allez, quelques semaines, si je ne m'abuse.
Il y a moins d'un mois, oui.
Voilà, moins d'un mois. Donc, les trois boutiques sont sur Paris. Comment s'est passée l'étape de dire, OK, est-ce que vraiment ça s'est passé, la première boutique marche, allez, on se développe. Comment un peu a été ta réflexion en se disant, OK, j'ai une boutique et je vais arriver à avoir trois boutiques Et deuxième partie de ma question, est-ce que les perspectives de développement sont d'en avoir finalement en province ?
C'est toujours dans cette logique qu'on a dit plutôt de... Mais c'est une vraie question intéressante d'un point de vue entrepreneurial. Quelle taille est satisfaisante et viable ?
Oui.
Là encore, à une boutique, on était... pas assez structuré pour que ce soit, là encore pour moi, viable. C'est-à-dire qu'en gros, avec une boutique, la boutique en ligne, je me suis retrouvée encore dans cette situation d'avoir trop de travail, trop de casquettes différentes. Et donc, il a été question pour moi, c'était en décembre, c'était Noël 2021. J'ai franchement, je pense, frôlé le vrai bon burn-out. Et du coup, à ce moment-là, j'en avais trop et je me suis dit, bon, alors, soit j'arrête tout, et c'est dommage, je recrute un associé qui va partager mon fardeau. Parce
D'accord.
que là, on parle donc d'activités vraiment spécifiques de gestion qu'on ne peut pas confier à un employé. Il faut que ce soit un associé et aussi de gestion de stress, tout simplement, de pouvoir parler avec quelqu'un de ses problématiques. Et ça aussi, j'ai appris qu'on ne peut pas en parler avec des employés. Ils ne veulent pas en entendre parler, je comprends parfaitement. Du coup, il a été question de ça. Et c'est à ce moment-là où j'ai cherché des associés et finalement je l'ai trouvé en la personne de mon mari,
d'accord,
qui est avec moi depuis le début de l'aventure. Et donc c'est le moment où il m'a dit écoute, je vais venir et je vais partager avec toi. Donc à partir de là, il a fallu construire justement pour de bon là cette fois-ci, parce que jusqu'à présent je me disais toujours bon, si ça marche et là donc visiblement ça fonctionne, maintenant qu'est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne vraiment. Donc moi toute seule ça ne va pas,
je comprends,
il faut que je sois avec un associé qui m'aide, qui soit complémentaire par rapport à moi sur
c'est justement la question que j'allais poser. Ton mari, quelles compétences complémentaires aux tiennes a-t-il qui font que c'est effectivement pertinent de venir s'associer, parce que autre parenthèse, c'est pas si simple que de travailler en famille ou avec son mari.
C'est clair. En fait, ça fait plutôt très peur. Et j'avoue que... Enfin, j'étais pas du tout partante au départ sur le fait de travailler avec lui, parce qu'on a tous les deux déjà des caractères très forts.
D'accord.
Et de mélanger, de mettre tous ses œufs dans le même panier, on dit que c'est jamais très bon. Donc, j'étais pas forcément convaincue.
Oui.
Toutefois, il a, lui, un profil d'ingénieur.
D'accord.
C'est quelqu'un de très rationnel. Mm-hmm. C'est pas mon cas.
Oui.
C'est quelqu'un d'extrêmement carré, organisé, qui va aimer trouver des solutions à des problèmes. Moi, j'aime pas trop ça.
Ouais. Non, mais parfaitement complémentaire,
du coup. J'apprends petit à petit, mais j'avoue, ça me... Voilà, c'est pas quelque chose qui est facile pour moi. Et puis, il est ingénieur vraiment dans l'âme, c'est-à-dire qu'il va aussi réfléchir à comment améliorer le quotidien. Et donc, c'est vrai que ça, c'était un besoin qu'on avait à l'atelier, d'avoir quelqu'un qui puisse réparer une machine quand elle ne marche pas.
Ouais.
D'avoir quelqu'un qui voit que là, c'est trop pénible, cette action-là. Comment est-ce qu'on peut faire pour la faciliter ? Et donc, ça, c'était vraiment pas dans mes cordes.
Oui, j'ai envie de dire finalement, qui mieux que ton mari aurait pu faire ça, étant donné ses compétences, son parcours professionnel.
Voilà.
Finalement, ça s'imposait un peu. Et je ne sais pas comment est le quotidien, mais j'imagine que vous avez chacun vos tâches, vos missions, et que finalement, vous travaillez ensemble, mais vous n'êtes pas 24 heures sur 24 ensemble. Ce qui fait que parfois, certains couples qui travaillent ensemble, justement, ne peuvent plus supporter au bout d'un moment. Là, ça doit être bien distinct. Vous avez chacun, en fait, vos missions, j'imagine.
Exactement. En fait, on s'est bien mis d'accord avant son arrivée sur quelles étaient ses missions, quelles étaient la mienne.
Oui.
On a eu une phase de transition où j'ai passé la main. Mais aujourd'hui, c'est extrêmement clair. Et, et on se voit très peu, d'ailleurs. Et c'est plutôt compliqué d'aborder les points ensemble. Ça arrive parfois. Enfin, on essaie d'éviter, mais c'est limite le soir qu'on peut parler de certains éléments. Parce que la journée, on se croise et on n'a pas l'occasion de se voir. Quoi.
Et donc, à ce moment-là, donc, ton mari te rejoint dans l'aventure. À ce moment-là, la Maison du Mochi, c'est combien de salariés ?
À ce moment-là, c'est une douzaine de salariés.
D'accord. Donc, effectivement, tu nous le disais tout à l'heure, le management, la gestion de personnel, c'est pas rien, en fait.
Non,
donc,
c'est très lourd. C'est devenu une grosse partie.
C'est ça. Ouais, finalement, le projet. Alors, il y a toujours cette passion pour la pâtisserie, mais c'est là où tu as besoin et tu peux pas être toute seule au bout d'un moment.
Non,
parce qu'il faut des compétences bien au-delà, des compétences plutôt entrepreneuriales, bien au-delà de la fabrication et de la gestion, entre guillemets, classique qu'on peut imaginer. Là, ça va au-delà. Donc, on comprend, en fait, le développement de l'entreprise et le fait que tu aies besoin d'être accompagnée au quotidien, en fait.
Oui, et puis la charge de travail, elle est devenue énorme à ce stade-là.
C'est ça, j'imagine. Ok, donc je parlais tout à l'heure donc, des boutiques. Est-ce que c'est une fois que ton mari t'a rejoint que vous décidez d'avoir deux autres boutiques avant? Comment est-ce que tu peux rapidement nous en dire plus?
Donc quand il arrive, on parle répartition des tâches.
D'accord.
Enfin, même avant qu'il arrive, on parle répartition des tâches. Est-ce que ce sera viable de travailler ensemble? Et on parle aussi voilà, comment on structure pour que ce soit aussi viable que tous les deux, on puisse vivre en étant à la maison du mochi. Sur cette base-là, on s'est rendu compte qu'il faudrait qu'on grandisse pour ouvrir 7 à 8 boutiques en France. Et peut-être en Belgique.
J'allais dire escale internationale aussi. Ouais.
Non, ça ne peut pas être vraiment l'international parce qu'on n'a pas de, on veut pas mettre de conservateur, on ne veut pas mettre trop de sucre.
Bah oui, c'est,
voilà. Donc forcément, on ne peut pas faire comme les mochis industriels qui durent 6 mois.
Bah, ce n'est pas l'objectif, hein. c'est pas l'âme de l'entreprise.
C'est tout sauf l'objectif. Donc on est parti, en tout cas, c'est sur quoi on est parti. Et aujourd'hui, c'est l'objectif que l'on a à 10 ans.
Ok.
Voilà, pour que ce soit confortable.
Ok, très bien. Donc, il n'y a pas longtemps, tout à l'heure, je l'ai évoqué, tu as ouvert la 3e boutique également à Paris, donc à l'arrondissement, celle-ci 17e.
Dans le 17e, ouais, donc c'est au 30 rue Legendre, en effet.
Oui, je mettrai les adresses des 3 boutiques dans les notes de l'épisode. Donc, 3 boutiques. Tu nous le disais, alors, tout à l'heure, tu nous parlais du nombre de salariés. Est-ce que ça a évolué vraiment là, à l'instant T où on se parle, la maison du Mochi, ces 3 boutiques, combien de salariés? Est-ce qu'on... Alors, je ne sais pas si tu peux nous donner un chiffre sur, je ne sais pas, le nombre de mochi produits vendus, ou enfin, pour qu'on se rende un petit peu compte.
Alors, en termes de salariés, on est 16 personnes.
D'accord,
aujourd'hui.
Donc ça a évolué finalement.
Ça a évolué, oui. On fabrique à peu près 2000 mochi par jour, sur 4 jours.
Oui, d'accord, voilà. Très bien. Et au niveau des boutiques, tu as des personnes qui sont en permanence au niveau des boutiques, à la production, comment c'est organisé? Alors, sans rentrer vraiment dans le détail, mais il y a Saint-Martin-le-Beau où il y a la production, et ensuite les 3 boutiques à Paris, et c'est toi-même, enfin toi-même, pas toi, Mathilda, mais en tout cas vous-même qui vous chargez d'approvisionner ces boutiques, comment un petit peu ça se passe? Comment tu as su comment faire pour toute cette logistique-là?
Cette logistique, elle a été mise en place à l'ouverture de la première boutique et elle fonctionne bien. C'est-à-dire, on produit voilà, en semaine sur 4 jours, ce qui est une manière assez simple de recruter aussi, puisque c'est un temps plein réparti en 4 jours en semaine, ce qui est voilà, quelque chose d'assez rare dans le métier de la restauration.
Oui.
Et c'est vrai que le recrutement est quand même une question importante, surtout quand on est en campagne, comme nous.
Bien sûr.
Et ensuite, donc on livre voilà, tous les jours. Les mochis sont fabriqués la veille et le lendemain en comptoir.
Donc on mange des mochis hyper frais dans les boutiques parisiennes. Ok. Est-ce que tu développes régulièrement de nouvelles recettes de mochi? Et si oui, est-ce que c'est toi toujours qui développe ces recettes? Est-ce que tu te fais accompagner par, je ne sais pas, des chefs pâtissiers? Enfin, comment ça se passe?
Donc, on développe tous les mois des nouvelles recettes.
D'accord.
Donc, c'est un vrai exercice qu'on pratique tous les mois. C'est très variable. Parfois, c'est moi qui les crée toute seule. Parfois, on les crée avec l'équipe. On part sur un parfum. Et puis, Claire, donc ma chef d'atelier, fait différentes propositions avec des dosages différents. On teste avec des épices différentes. Voilà. Ou parfois aussi, ce sont des collabs. Donc, si je fais appel à quelqu'un, ce n'est pas vraiment appel, c'est-à-dire je commande tel parfum, mais je contacte quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler.
D'accord.
Et on discute, la personne déjà me dit si oui ou non.
Bien sûr.
Et ça arrive que non. Et ensuite, on part sur voilà, ce que l'autre personne a envie et on arrive à un parfum que l'on travaille ensemble la plupart du temps.
Okay.
Et que l'on lance, c'est souvent des parfums éphémères en revanche.
Ah oui.
Voilà. Puisque bon, on est aussi très branché saisonnalité.
Et oui, d'accord.
Puisque de toute façon, c'est rare qu'on ait toujours envie de la même chose en fonction de l'année.
Oui.
Donc on évolue avec les saisons et c'est un jeu qui est important pour nous.
Ok. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de recettes qu'on peut déguster là aujourd'hui si on veut commander en ligne ou aller en boutique?
Oui.
Faire saliver un petit peu.
Alors là, en ce moment, le mochi du mois d'octobre qui vient donc d'être lancé, il est au miso et aux noix.
D'accord.
Il est complètement dingue.
Okay.
Il a été fait avec Léa, donc, qui était un peu... mon modèle quand j'étais au Japon, elle a un blog qui s'appelle Cléa Cuisine, que j'ai arpenté tous les jours quand j'étais là-bas, puisqu'elle parlait de cuisine japonaise, entre France et Japon aussi. Et depuis, on est devenus amis et je lui ai proposé donc, de travailler sur, sur un mochi commun pour déjà concrétiser cette amitié. Et c'est puis, ça, enfin, pour moi, c'est comme boucler la boucle un petit peu.
Oui, exactement.
Et donc, il est fou parce que le miso, donc, c'est une pâte de soja fermentée qui est assez salée, qu'on utilise avant tout, on le connaît dans la soupe miso.
Oui, c'est voilà. Ça.
Mais en fait, c'est une sorte de condiment qu'on peut utiliser de plein de manières différentes.
Ok.
En salé principalement, mais dans le sucré, il fait vraiment des étincelles parce qu'il apporte plein de nuances autour des caramels, il y a un côté biscuité, miellé, voilà, dans ces notes-là. Et il apporte la petite touche de sel. Donc là, dans ce Daifuku-là, avec en plus la noix, il y a un côté caramel au beurre salé. Un peu.
Oui, je vois.
Très bien. Il est vraiment génial, moi je l'adore.
Ok, bon, on a très envie de goûter. Alors, tu nous parlais tout à l'heure que les idées de développement à 10 ans approximativement, c'était l'ouverture de boutiques en province principalement.
Oui.
Est-ce que tu as déjà des villes dont tu as très envie? Tu cibles, j'imagine, les grosses villes pour quand même avoir un maximum de clients potentiels et toucher le maximum de monde.
Oui, évidemment, on ne peut pas s'installer dans une petite ville. Par exemple, même Tours,
oui.
Même si on est à Saint-Martin-le-Beau et qu'on en a très envie, ça ne me paraît pas très prudent.
Ouais.
La cliente type aujourd'hui, c'est une femme cadre qui a entre 20 et 50 ans, qui... c'est vrai que c'est une pâtisserie aussi un peu de luxe. On utilise des très bons ingrédients et on peut pas se permettre de la vendre peu cher comme les mochis industriels. Donc j'ai conscience aussi que c'est un certain budget.
Oui.
Et c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse, qui est à la recherche de la nouveauté. Donc c'est vrai qu'à Paris, j'ai découvert la curiosité insatiable des Parisiens. Et c'est vrai que c'est une qualité des Parisiens incroyable. La première ville de province où on s'installerait, ce serait Lyon. Puisqu'on a pas mal de demandes aussi.
Et du côté de Lyon.
Comme par hasard, c'est la ville, la capitale de la gastronomie. Et donc, ça se confirme. Parce que franchement, on a plein de demandes.
D'accord, très bien. Alors, on a hâte de voir ces projets-là. Et justement, je ne sais pas si on peut l'évoquer, mais nous, ici en Touraine, je sais que j'ai déjà vu des ventes conjointes avec Bedgman & Barton.
Exactement.
Qui fait du thé. Donc, ça peut permettre, si on n'a pas le temps, l'envie d'aller sur Paris dans les boutiques, de pouvoir quand même aller déguster les mochis puis prendre un petit peu de thé dans la boutique
en même temps. Exactement. Alors, Benjamin et Barton fait des ventes une fois par trimestre, à peu
D'accord.
près. Et en dehors de ces moments-là, il est aussi possible de venir à l'atelier retirer sa commande. Il n'y a pas
D'accord.
besoin d'aller jusqu'à Paris pour les chercher.
Ouais, ouais.
En fait, il suffit d'aller sur notre site internet, de remplir son panier et de choisir retrait en boutique. Et vous avez un petit menu déroulant avec l'atelier de Saint-Martin.
D'accord. Donc, quand on est en Touraine, on peut venir directement à la maison du mochi
à
chercher
l'atelier, tout à fait.
Les pâtisseries.
Et vous avez les prix des boutiques, c'est-à-dire le coffret n'est pas à 28, de 8, mais il n'est pas à 28, mais à 26 euros.
D'accord, ok, très bien. Bah, l'info est bonne à prendre.
Voilà.
Très bien. Écoute, comme chaque fin d'épisode, j'ai trois questions à te poser parce que j'aurai encore plein de choses à te demander, mais on arrive à la fin. Est-ce que tu peux nous parler d'un échec, d'une déconvenue, de quelque chose, un plan, un projet que tu avais prévu comme ça, puis qui finalement ne s'est pas vraiment passé comme ça? Mais l'idée en fait de cette question, c'est de se dire que finalement, on tombe et on se relève toujours et qu'on apprend.
Oui, c'est sûr qu'un échec ou une difficulté, il faut au moins pouvoir la transformer. Moi, j'en ai eu énormément, évidemment. Là, au niveau professionnel, c'est quelque chose qui est encore douloureux. Mais j'ai pensé, c'est le premier truc auquel j'ai pensé quand tu m'as parlé de cette question. Donc, je vais vous en parler. Là, il y a quelques années, j'étais invitée pour faire un atelier dans un salon de thé.
Oui.
Et cet atelier, j'y suis allée parce que je m'étais dit que c'était bien pour la communication, pour rencontrer aussi des clients potentiels et aussi pour faire plaisir à la personne qui m'invitait.
Qui te l'a demandé, oui.
Mais du coup, j'étais aussi, en plus du travail, de l'énorme charge de travail que j'avais, ça me demandait cet effort en plus de faire, c'était à Paris en plus, de faire un aller-retour et tout.
Oui.
Donc j'y suis allée, mais un peu en traînant des pieds.
Mmh.
L'atelier se passe plutôt bien, j'ai l'impression. Mais je suis un peu contrariée parce que ça a été un peu organisé à l'arrache.
D'accord.
Le matériel que j'avais demandé n'est pas là. On me donne autre chose. Donc, je me sens un peu, pour plein de raisons, un peu en insécurité.
Mm-hmm.
Bon, j'arrive à le faire quand même, mais je passe pas un très bon moment.
Pas
en
agréable.
Plus,
voilà. Oui.
Et à la suite de ça, je reçois un mail incendiaire de la personne qui m'accueille. qui m'a accueillie en disant que j'avais été horrible.
D'accord. Ok.
Et du coup, c'est vrai que ça a été vraiment très dur. C'est-à-dire que c'était il y a plusieurs années, mais encore, quand j'y pense, il y a un pincement au cœur.
Ouais, 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 je comprends, ça t'avait vraiment affectée.
Une horrible expérience, mais du coup, c'est vrai qu'au départ, j'arrivais même pas à y penser parce que ça faisait trop de mal.
Ouais.
Mais comme ça revenait tout le temps, et puis voilà, un échec, il ne faut pas le laisser comme ça, parce que sinon, voilà, petit à petit, j'ai réussi à y repenser sans trop avoir mal.
Oui.
Et aujourd'hui, je sais qu'en premier lieu, ce qui a posé problème, c'est que je n'étais pas à 100%.
Oui.
Je pense, du coup, ma conclusion à ça, mon retour d'expérience, c'est soit tu le fais à 300%, soit tu ne le fais pas.
Oui.
Donc, il faut aussi apprendre à dire non.
Oui, à s'écouter, finalement.
Super important. Ouais. Ouais. Donc, depuis cette expérience-là, je suis très claire par rapport à ça. Et je refuse beaucoup de choses qu'on propose, mais tout simplement pour ne pas décevoir en face.
Oui, ouais, ouais. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu viens de nous confier. Quelle est la personne qui t'inspire le plus, de qui tu aurais le plus appris, que tu as rencontré ou pas forcément ?
Donc, il y a énormément de personnes qui m'inspirent. Mais là, dernièrement, j'ai appris l'épopée de Ernest Shackleton. Je ne sais pas si tu sais qui c'est.
Pas du tout.
Donc, c'est un navigateur qui a eu un énorme échec et qui a réussi pourtant un truc incroyable. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un explorateur qui, à la fin du 19e ou début 20e, je ne sais plus, a voulu traverser l'Arctique à pied avec toute une équipe.
Okay.
Et s'est retrouvé avec son bateau bloqué dans les glaces. Mm-hmm. S'est retrouvé dans une situation où potentiellement tout le monde serait mort.
C'est ça, ouais.
Il a réussi à ramener tout son équipage vivant.
Waouh.
Et pour ça, il a été au travers d'énormément de risques, de douleurs. Enfin, il a fait preuve d'une persévérance déjà incroyable. Et en plus d'un art du management incroyable. Ouais. C'est-à-dire qu'il a réussi, parce que dans cette situation, le risque, c'est quoi ? Bah, que vous fassiez manger par un ours polaire, que vous glaciez, vous couliez, mais aussi que vous entretuiez. Et non, il a réussi à garder le moral de tout le monde.
Oui, c'est encore plus dur, ça.
Et ça a duré quasiment un an, où il était isolé sur la banquise avec son équipage.
Ah, ouais,
donc, vraiment, j'étais fascinée par ce personnage. Et il existe une bande dessinée, justement, que j'ai offerte à mes enfants, parce que j'ai trouvé ça très intéressant comme modèle en fait d'un échec, mais qui est une immense victoire.
Oui, ouais, bien sûr. Ok, bah, merci de ce partage. Et enfin, j'aimerais conclure par ton mantra, ta citation préférée, si tu en as une.
Alors, depuis que je suis toute petite, je suis bercée au mantra par mon père.
D'accord.
Qui adore. Donc, à cheval donné, on ne regarde pas les dents, l'église au milieu du village. Donc, tout ça, c'est des proverbes qui me touchent plus ou moins. Mais il y en a une phrase que je garde de lui et qui me revient très souvent dans des situations. C'est gagner ou avoir raison.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire, on peut soit gagner dans une situation... c'est-à-dire sortir grandi d'une situation, ou avoir raison, c'est-à-dire avoir le dernier mot. Et parfois, l'un va contre l'autre.
Oui,
donc,
je comprends.
Il faut savoir se taire pour avancer, au lieu d'être celui qui est un peu le schtroumpf savant qui sait plus que les autres.
Okay.
Il y en a une autre que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que j'adore, c'est « Personne ne peut te blesser sans ta permission
». Très bien.
De Gandhi.
D'accord.
Et celle-ci, c'est vrai que je la trouve magique, puisque forcément, dans la vie, on est forcément amené à se remettre en question. Mais en fait, penser que c'est nous-mêmes qui allons nous blesser par rapport à une interprétation des autres, j'ai trouvé ça très intéressant pour avancer aussi.
Oui, ça peut aider effectivement pour avancer. Écoute, un grand merci Mathilda de m'avoir accordé de ton temps, de ta générosité pour nous parler de ton parcours. Je mettrai un petit peu tous les liens pour te retrouver. Est-ce que tu peux nous dire, au-delà des boutiques, est-ce que tu as des réseaux sociaux si on veut suivre l'actualité de la Maison du Mochi ?
Oui, bien sûr, on est très présent sur Instagram, la Maison du Mochi, et un petit peu sur TikTok.
Oui, très bien. Et alors, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode, à la fois des boutiques, de la boutique en ligne et puis des réseaux sociaux. Merci mille fois. À très bientôt, Mathilda.
Avec plaisir. Au revoir.
Et voilà, l'épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un commentaire et un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Sachez que ces avis sont très importants pour moi et pour le podcast. Et puis pour suivre Comme Elle, rendez-vous sur Instagram ou sur Facebook @comeelle.lepodcast. Merci de votre soutien et puis je vous dis à dans 15 jours.